La journée mondiale du don d'organes et de la greffe, c'est dans quelques jours, le 17 octobre. Et à cette occasion, eh bien, nous avons voulu vous raconter l'histoire de Nénette. C'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans et surtout de son combat hors norme. C'est un reportage que je vous avais proposé il y a 2 ans. Et il est très fort. Nénette est décédée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, après une longue bataille contre le cancer. Elle était atteinte d'une tumeur au cerveau. Alors elle avait fait le choix de l'euthanasie et le choix aussi, et peut-être surtout, de donner ses organes. Elle avait à l'époque voulu rendre son geste public pour inciter d'autres personnes à se déclarer donneuses si elles venaient à mourir à leur tour dans les conditions qui permettent le don d'organes. À sa demande, nous avions donc rencontré Nénette et ses parents peu avant son décès. Nénette, c'est un surnom, un nom d'emprunt. Les règles du don d'organes exigent l'anonymat. Un receveur ne connaîtra jamais le nom de son donneur. Voici donc la vie après Nénette. C'est un reportage de Julien Bader et Barbara Schall, diffusé une première fois le 14 octobre 2023 dans Transversal.
C'est Nénette qui a demandé à nous voir. Nénette, c'est son surnom, un petit nom que lui a donné un jour un ami de la famille et qui lui colle à la peau. Elle est brune, le regard décidé, une tignasse courte et rebelle à cause des chimios. Au moment où nous la rencontrons, Nénette a 16 ans et une tumeur au cerveau qui ne lui laisse plus d'espoir. Il ne lui reste que quelques jours à vivre et elle le sait bien, puisque c'est elle qui choisira le moment. À sa demande donc, on la rejoint dans sa chambre d'hôpital. Elle est entourée de ses deux parents.
Bonjour tout le monde.
Moi, c'est Barbara. Enchantée. Salut, maman. Bonjour, okay. Julien,
enchanté.
Voilà.
C'est Nénette.
Nénette. Oui. Mmh.
Voilà, du coup, est-ce que ça te va si on t'appelle Nénette, qui est ton surnom? Oui, voilà, tu fais un pouce levé. Mmh. Nénette, si tu as des choses à nous dire, peut-être que tu peux voilà, nous faire un signe et puis tes parents expliqueront peut-être un peu mieux ta pensée, si ça va. Ouais. Ok. Super.
À ce stade, Nénette ne peut plus parler. Ce sont ses parents qui prennent la parole pour elle. Mais elle suit attentivement la conversation. Elle lève le pouce pour acquiescer. Elle nous sourit. Vous l'entendrez parfois émettre des petits sons. Si elle a tenu à nous faire venir, ce n'est pas pour s'étendre sur sa maladie, mais pour nous parler de la suite.
Elle a décidé de faire don de ses organes, et ainsi que son cervelet. Avec les tissus pour aider la recherche, voilà, et aider d'autres personnes. Elle a décidé ça toute seule, donc on n'était pas au courant, et elle en a fait part à la psychologue et la responsable du service, parce qu'elle avait décidé de ne pas continuer à vivre dans un corps où on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on ne peut pas manger, et voilà, elle s'est dit, elle a profité de l'occasion pour surprendre tout le monde et dire, voilà, moi je veux donner mes dons d'organes. Et je crois que le médecin qui s'occupe d'elle et la psychologue qui l'a suivie tout au long de sa maladie sont tombés le cul à terre, comme on dit. C'est comme ça, hein, même.
Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez été vraiment impressionnée par son geste, parce que c'est pas du tout les parents ou le corps médical qui l'a suggéré.
Oui, en effet, c'est Nénette qui a décidé d'elle-même, et on a appris hier d'ailleurs que cela faisait 2 ans qu'elle y pensait. Donc même quand elle était en bonne santé et sans sa maladie, elle pensait déjà au don d'organes.
C'est intéressant aussi que tu aies choisi, Nénette, d'en parler au médecin avant d'en parler aux parents. C'était quoi? C'était peut-être une peur de votre réaction?
Ouais, je pense. Je pense le fait de passer par la psychologue qui l'a suivi dès le départ, je crois qu'elle nous préserve. Elle ne fait que nous préserver.
Nénette confirme, elle
c'est
dit
vraiment
oui.
Ça.
Ouais, elle a fait la manière la plus facile peut-être pour nous.
Elle nous tranquillise. C'est vraiment, pour moi, c'est le message, c'est n'ayez pas peur et ne vous tracassez pas.
Je sais
ce que je veux et comment je veux le faire, et je crois que c'est vraiment ça.
Comment ça t'est venu, Nénette, cette idée, avant même d'être malade? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille comme toi pense à ça?
Des émissions.
Elle veut aider les autres. Voilà.
Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été en elle.
Oui.
Oui. Elle voulait être avocate pour défendre les malheureux.
Ouais, tu voulais être avocate et ici, quelque part, c'est un peu dans la même logique. L'idée, c'est d'aider les personnes, en tout cas.
Oui.
Ouais. Les parents, comment vous avez réagi à cette annonce, à cette volonté?
Enfin, moi, surpris, mais pas étonné.
Oui, moi aussi, surprise, si jeune, de prendre des décisions si importantes, mais pas étonnée non plus, dans le sens où on reconnaît bien là notre fille. Et on est très fiers, très très fiers. Elle savait toujours ce qu'elle voulait. Ah oui, quand c'était non, quand c'était oui, elle savait ce qu'elle voulait. Et voilà, elle avait du caractère, elle ne se laissait pas faire.
Nénette, ici, est une championne.
Quand le professeur est venu lui expliquer, et donc il lui a dit que grâce à elle, peut-être 5 vies pourraient être sauvées, mais le grand sourire que Nénette a eu, c'était impressionnant.
C'était beau.
Oui. On voyait que ça lui faisait, que ça la touchait et que ça lui faisait plaisir d'entendre ça.
Ouais. C'est un moment qui t'a marqué, en effet, Nénette. Oui. Donc vous nous dites que vous avez été très fière quand Nénette vous a annoncé ça. Et ça a été votre première réaction. Vous vous êtes tout de suite dit, oui, ok, on la suit. Il n'y a pas eu une petite hésitation.
Eh bien, non.
Je suis waouh dans ma tête.
Surprise, oui, mais...
Waouh.
De suite,
wow, magnifique.
On l'a suivi. On l'a suivi de suite.
Après son décès, Nénette veut faire don de ses organes. Mais elle veut aussi rendre son geste public. C'est pour ça qu'elle a contacté la RTBF. En tant que future donneuse, Nénette a l'obligation de rester anonyme. Nous ne donnerons donc pas son vrai nom dans ce reportage. Son objectif, c'est d'inciter ceux qui ne l'ont pas encore fait à se déclarer donneur d'organes, à commencer par son entourage. Mission accomplie, puisque ses parents viennent de remplir leur papier de consentement alors qu'ils n'y avaient jamais pensé avant.
Ça ne nous venait même pas. On savait que ça existait, mais je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, ça devrait... devenir naturel dans toutes les personnes, dans tous les pays. Pour moi, ça devrait être normal. On ne devrait même pas demander. Ça devrait être tout à fait normal, car on sait qu'en montant au paradis, les pièces restent, le cœur, tout ça, ça reste. Ça ne sert à rien, il n'y a que l'âme. Et en faisant ça, je crois qu'on facilite l'âme.
En vous écoutant, Nénette a levé plusieurs fois le pouce, donc elle approuve vraiment, voilà, elle le lève encore, elle approuve le discours de son papa. Et quelque part, c'est peut-être une fierté pour toi d'avoir mis cette réflexion dans la tête de tes parents. C'est un peu le cheminement inverse, c'est une jeune adolescente. Ouais.
Dans le cœur,
voilà. Nénette se touche le cœur. Ouais. C'est une fierté pour toi d'avoir réussi à faire ça. Ouais.
Donc de nouveau, c'est pour conscientiser, je pense, les gens. On a des choses précieuses dans le corps qui peuvent sauver des vies. Et on n'en est peut-être pas toujours conscient.
Donner ses organes, c'est ce qu'il y a le plus beau sur Terre. Comme donner vie. Et elle donnera vie. Je suis fier d'elle et... C'est une fille magnifique.
Merci beaucoup.
Nénette a découvert qu'elle était atteinte d'une tumeur au cerveau il y a tout juste un an. Elle a été opérée une fois, a suivi un programme de revalidation avant de rechuter. Un combat de 12 mois durant lequel elle a pu compter sur le soutien de l'équipe médicale du CHR.
Je m'appelle Isabelle Bado, je suis psychologue dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique de la Citadelle depuis 1994. J'accompagne Nénette et sa famille depuis l'année dernière, au moment de l'annonce de son diagnostic de tumeur cérébrale. Je vais une fois par semaine à la maison quand elle n'est pas hospitalisée ou quand elle n'est pas à l'hôpital. Et donc, je la connais bien.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Nénette, de son caractère? Qu'est-ce que vous avez appris à connaître d'elle en un an?
Donc, c'est une jeune fille extrêmement intelligente, extrêmement déterminée, je trouve, courageuse, extrêmement lucide aussi. Une jeune fille qui a beaucoup réfléchi, je pense, pendant toute une année, mais qui avait déjà beaucoup réfléchi avant parce qu'elle a une histoire de vie... Voilà, avec différents éléments qui l'ont rendue fort mature, je crois, depuis longtemps. Ici, à l'annonce de sa rechute, elle a choisi de... Enfin, elle a dit qu'elle ne voulait plus, que c'était trop. C'est elle qui, spontanément, alors qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire, qu'elle voulait donner d'abord son corps à la science. Alors, on a compris que c'était pas donner son corps à la science, mais c'est donner son cerveau pour essayer de comprendre et connaître mieux la maladie qu'elle avait et pouvoir peut-être mieux la guérir pour que ça puisse servir à d'autres. Alors, elle fait des gestes très, très clairs, en fait. Elle ne parle pas vraiment spontanément. Enfin. Donc, elle a demandé d'abord ça, et puis elle a dit « je voudrais donner mon cœur ».
C'est-à-dire, parce que les auditeurs ne voient pas, elle vous a fait un signe, elle a posé ses mains sur son cœur,
c'est oui, ça ? C'est ça. Et donc j'ai compris, je dis « mais tu veux donner ton cœur ?» Et donc, on était très surpris, et je dois dire qu'on était un peu sans voix. Parce que, ben voilà, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Comme elle a ses difficultés de parole, j'ai dit « mais... Nénette, est-ce que je comprends bien? Tu viens de dire, je veux donner mes organes à la science. » Elle m'a fait oui, en levant le pouce, hein, elle fait toujours... Et puis, elle m'a montré son cœur et elle m'a montré l'extérieur, quoi, qu'elle voulait donner son cœur. Et donc, j'ai répété à nouveau pour être sûre. Elle a à nouveau levé son pouce. Et voilà. Et donc, après, elle m'a demandé d'en parler à ses parents. Et donc, on a fait revenir les parents. On a expliqué. Ils ont été aussi surpris que nous, je pense. Mais tout à fait fiers de leur fille. Et je crois qu'il y a de quoi. Et confiants dans ce qu'allait être mis en place. Je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais juste vous dire que moi, je l'accompagne dans ses choix. Et que j'essaierai, en tout cas, jusqu'au bout de soutenir tous les choix. Parce que je pense que ça a du sens. Ça a du sens surtout pour elle, et pour moi c'est ça qui est important, c'est que ça ait du sens pour elle. Quand elle a appris qu'elle pouvait être donneuse d'organes et qu'elle pouvait peut-être aider plus qu'une personne, qu'elle pouvait donner plus que son cœur, vous auriez vu la joie qu'il y avait dans ses yeux et le rire qu'on a entendu, c'était vraiment beau.
Face à cette maladie qui ne lui a laissé aucune chance, Nénette a fait le choix de l'euthanasie, le choix de partir au moment où elle le décidera. Le docteur François Dama tient une consultation de fin de vie au CHU de Liège. C'est lui qui a accompagné la jeune fille dans cette démarche.
Alors Nénette, elle a traversé des épreuves importantes depuis que le diagnostic a été prononcé il y a plus d'un an. Et donc elle a eu le temps de réfléchir et à la fin de sa vie. Et donc, elle a fait une démarche extrêmement personnelle. Elle a voulu que sa mort puisse servir à quelque chose, qu'il donne une signification à sa mort. Et pour elle, c'était important de pouvoir, de savoir qu'elle pourrait donner ses organes après sa mort.
Comment vous interprétez cette demande de certaines personnes qui demandent l'euthanasie mais qui veulent absolument faire don de leurs organes? Quelle est la signification finalement de cette volonté?
Mais je pense que c'est la recherche du sens. La recherche du sens de ce qu'est leur vie et de ce qu'est leur mort. Pour eux, pour ces personnes, elles estiment essentiel de pouvoir porter un message ou laisser une trace d'elle après leur mort. Et ce geste généreux de leur part, je pense qu'ils veulent pouvoir laisser un message à leur entourage des valeurs qu'elles ont voulu défendre ou des valeurs qu'elles ont voulu porter ou de l'image qu'elles veulent encore laisser après elles. Je pense que c'est une affaire de sens. et peut-être en partie de consolation.
C'est-à-dire
l'entourage peut y trouver aussi, peuvent se raccrocher quand même à un petit quelque chose, avoir perdu un enfant ou avoir perdu un proche, et savoir que son cœur va toujours chez quelqu'un d'autre, c'est peut-être un élément qui permet aussi de se raccrocher à quelque chose et qui diminue un peu le chagrin, enfin peut-être. Bon.
À l'inverse, quels peuvent être les freins? Pourquoi certaines personnes sont-elles réticentes, voire complètement opposées à l'idée de faire don de leurs organes après leur mort?
Il faut dire que cette question-là est, je pense, assez personnelle, et ceux qui s'y opposent ne s'étendent pas beaucoup sur les raisons qu'ils ont de s'opposer au prélèvement. Donc j'ai, moi, rencontré à plusieurs reprises des familles qui s'opposaient au prélèvement d'organes. Et les raisons sont diverses. Hein. Ils peuvent très bien avoir un mauvais contact avec la médecine en général, une méfiance de la médecine hospitalière, un certain degré de méfiance aussi pour reconnaître ceux qui pourraient bénéficier des inconnus. Hein. Ils sont encore d'accord de donner leur organe à quelqu'un qu'ils connaîtraient, mais quand on sait les règles d'anonymat et de distribution un peu tout azimut des organes à travers l'Europe, ça c'est un élément qui leur fait dire non. Donner à des inconnus, ça ne leur plaît pas. J'ai déjà eu à plusieurs reprises cette remarque.
Pourtant, les besoins sont grands. En 2022, près de 100 personnes sont mortes en attendant un don. Rares sont en fait ceux qui, comme Nénette, donnent leurs organes après une euthanasie. Dans la plupart des cas, les donneurs sont des personnes mortes après un accident ou une maladie. Mais seules les personnes qui décèdent à l'hôpital, aux soins intensifs, pourront donner leurs organes. C'est un tout petit pourcentage des décès.
Voilà, je suis Josée Monard, une des coordinatrices de transplantation du CHU de Liège. On est pour le moment aux soins intensifs.
Alors expliquez-nous, si malheureusement une patiente qui se trouve ici venait à décéder, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la procédure qui se met en route?
Ok. Chaque fois qu'il y a un donneur potentiel, on nous contacte à la coordination de transplantation afin qu'on puisse vérifier le registre national. Ça, c'est la première étape. Alors là, comme 99 ou 90% de la population, c'est qui ne dit mot consent, ils n'ont pas fait de geste au niveau du registre, donc là, ils sont d'accord, soit il y a une opposition au registre et là nous n'irons pas au prélèvement, soit il y a une acceptation et là on va au prélèvement. Dans les hôpitaux périphériques, il y a des coordinateurs de dons qui vont nous référer tous les caractéristiques du donneur, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la pathologie, les antécédents, etc. On va voir si ce donneur-là peut donner les organes.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si la personne vraiment peut et a émis la volonté de son vivant d'être prélevé.
Voilà. Donc, si le patient est dans les conditions d'être donneur aussi bien au niveau médical qu'au niveau du registre, donc par exemple, qu'il n'y a pas un cancer, qu'il n'y a pas d'autres pathologies, par exemple, ça peut être des infections, une hépatite C, un HIV, toutes ces choses-là, on va demander des examens par organe. Donc, par exemple, pour le cœur, il faut minimum une écho-cœur, voire une coronarographie. Pour les organes abdominaux, il faut un scan abdominal. Pour les reins, il faut des analyses urinaires. Et une fois que le dossier est complètement constitué, on envoie ça par un logiciel adapté à Eurotransplant. C'est un organisme qui s'occupe de l'allocation des organes et qui travaille avec plusieurs pays en Europe. Et donc, eux vont faire l'allocation des organes. À ce moment-là, Eurotransplant va essayer de rechercher les receveurs les plus compatibles par organe. Et pendant ce temps-là, il faut maintenir le donneur ici aux soins intensifs dans les meilleures conditions possibles. Alors, une fois qu'on va au bloc opératoire, ben là, le prélèvement peut proprement commencer.
Ce sont des organes qui ne vont pas forcément rester en région liégeoise ou en Belgique. Ce sont des organes qui peuvent aller loin.
Eurotransplant a une formule d'attribution des organes. Donc il y a des gens qui sont listés, comme on dit, en urgence, qui passeront avant des gens qui sont inscrits électivement. Donc oui, ils peuvent partir à l'étranger. Ça peut partir en Autriche, en Allemagne, en Slovénie, en Croatie, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Donc dans tous les pays travaillant avec Eurotransplant.
Comment ça se passe le transport? Comment on conserve ces organes dans de bonnes conditions?
Alors, dans la majorité des cas, l'organe est conservé dans de la glace, donc vraiment à froid, à 4 degrés. Donc, on met l'organe dans un sachet avec un produit de conservation spécifique, qu'on met dans un deuxième sachet avec un liquide, et encore dans un troisième sachet, et on met ça dans une boîte avec des glaçons. Depuis peu, il y a aussi des machines de conservation où on va aussi mettre les organes à froid, mais où ils seront perfusés sur la machine.
Et là, il faut être très rapide.
Rapide, oui ou non, ça dépend de l'organe. Donc, par exemple, pour un cœur, on peut aller de 4 à 6 heures, mais par exemple, pour les reins, on peut aller jusqu'à 24 heures. Donc ça, c'est vraiment dépendant de l'organe. Et donc, c'est vrai, quand on parle qu'on doit les greffer en déant les 4 heures ou en déant les 24 heures, ça veut dire qu'une fois que l'organe est enlevé chez le donneur, c'est qu'il soit fonctionnel chez le receveur. Et ça, c'est le laps de temps.
Un donneur peut sauver jusqu'à 8 vies avant même le prélèvement des organes sur le donneur décédé. Les receveurs sélectionnés sont informés. Ils ont alors quelques heures pour se rendre au centre de transplantation le plus proche de chez eux. C'est une infirmière coordinatrice qui est chargée de les prévenir.
Allô ?
Oui, c'est José Monard, une des coordinatrices de transplantation du CHU de Liège.
Oui.
Je vous téléphone parce qu'on a une possibilité de greffe pour vous. Demain.
Demain?
Oui.
Je viens alors aujourd'hui.
Ok. Alors, oui. Vous allez venir comment?
Oui. Avec l'ambulance ou en hélicoptère.
Demain, vous aurez seulement la confirmation vers midi ou début d'après-midi. Oui, voir d'accord. Si le foie est beau. Hein, vous savez oui. Ça. Hein, donc, on va tout faire, mais on aura la confirmation que demain.
D'accord. Merci.
Ça va? Allez,
ça va.
Demain alors.
Au revoir.
Alors voilà, là, vous venez de passer un coup de fil pour annoncer à quelqu'un donc qu'il va pouvoir sans doute bénéficier d'un organe. On imagine que pour vous, c'est les moments agréables du métier, les moments de bonheur.
Tout à fait. C'est un des moments, oui, de bonheur. Oui, on voit le côté... détresse des familles des donneurs, mais on voit aussi le côté d'appeler un receveur. Maintenant, la joie, ce n'est que quand la transplantation est réussie, évidemment.
En Belgique, on peut explicitement se déclarer donneur d'organes ou au contraire préciser qu'on ne veut pas donner ses organes. La démarche est toute simple, c'est un papier à remplir à la commune ou auprès de son médecin. Et depuis peu, on peut même le faire en ligne sur le site officiel masanté.be. Ça prend quelques secondes. Et pourtant, la majorité de la population se tait. Plus de 10 millions de personnes n'ont fait aucun choix. Et en Belgique, qui ne dit mot consent? C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, ils sont présumés donneurs. En théorie donc, se déclarer donneur d'organes ou ne rien dire, cela revient au même. Mais en pratique, c'est plus subtil, puisque la famille du défunt peut s'opposer au don si la personne ne s'est pas prononcée de son vivant. Se déclarer donneur d'organes de façon explicite, cela pourrait donc rendre les choses plus simples pour tout le monde en cas de décès.
Je pense que quand on est donneur, ça peut faciliter les familles. Quand on leur dit qu'on a regardé le registre national et que le patient avait dit qu'il est donneur, ça facilite, je trouve, les familles à ne pas devoir se dire qu'est-ce qu'il aurait voulu, comment est-ce qu'il aurait pensé. Et je pense que ça facilite, oui.
Bonjour.
Bonjour. Tipi. Bienvenue, donc on est à Fizène, le village des Rosés. Dans un petit village tranquille, c'est un peu paisible.
Vous avez toujours vécu ici?
Ah oui, j'ai toujours vécu ici, oui. Ouais.
Et alors, vous aimez bien les animaux, on dirait? On a entendu, on a été accueillis par votre petit chien, Chippy.
On a tous, on a des chèvres, aux chats, avec un arrive, même un pigeon.
Et voilà, et aussi deux perruches dans votre salon qu'on risque d'entendre de temps en temps pendant l'interview.
Oui, mais en général, ça va, elles font pas beaucoup de bruit.
Un quotidien paisible qui a basculé il y a 10 ans. Adolescent à l'époque, Ivéric doit être hospitalisé en urgence. C'est grâce à une greffe du cœur qu'il a eu la vie sauve.
C'est le cœur qui a eu un virus. Donc ça s'est transformé en insuffisance cardiaque. Et c'était pas le choix. Soit c'était ça, ou voilà, c'est fini, on en arrêtait là, quoi. C'était donc, c'est passé il y a, cette année, ça fera 10 ans, d'ici quelques mois, donc, et c'est vraiment une chance de l'avoir. Donc, si on n'a pas ça, on ne vit plus, donc, alors j'ai eu ça quand j'avais 17 ans. Je suis rentré, donc, à l'hôpital début août, et mi-septembre, j'étais transplanté. La greffe, c'était... on n'avait pas le choix. En fait, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, moi. Je disais, dans mon malheur, c'est un avantage. J'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Ça arrivait très vite. J'ai l'impression que ça a duré 3-4 jours. J'ai pas l'impression que ça a duré longtemps, en fait.
Mais donc, il y avait une nécessité d'agir très, très vite dans votre
cas. Oui, c'était... Il n'y a pas le choix. J'étais mis sur les listes en tête, parce que vu que j'étais jeune, 17 ans, ben, c'est très jeune... J'avais jamais eu de problème non plus de santé, donc tout ça a fait qu'en fait on est mis sur la liste en prioritaire, en fait. Donc ils ont dit que c'était un virus apparemment d'Amérique du Sud et tout ça, mais sans être sûr. J'étais en 5e cette année-là, professionnel, donc il y a eu les stages, je suis fort fatigué, on se dit ben voilà, c'est la fin d'année. Et puis au final, en fait, c'était pas ça du tout, donc...
Et donc, vous vous êtes réveillé finalement avec un nouveau cœur, sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre ce qui vous était arrivé pendant tout ce temps.
Tout ce que je sais, je me rappelle, c'est que je vois encore les appareils autour de moi, et qu'un jour, je me réveille, il n'y a plus rien. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance, donc...
Finalement, si vous avez pu vous en sortir, c'est quand même grâce à ce cœur qui vous a été greffé.
Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Ah ouais, j'aurais pas eu un cœur, je ne serais plus là, non. Ah ouais, si j'aurais pas eu un cœur d'une personne, ça non, je ne serais plus là, non. Donc voilà, 10 ans que ça, j'en profite, donc je vais dire... c'est bien, c'est tant mieux, c'est...
Même dans la maladie.
Retour dans la chambre de Nénette. Elle est bien coiffée, elle a les ongles soigneusement vernis, en bleu. L'esthéticienne lui prodigue maintenant quelques massages relaxants, des moments de douceur et d'apaisement partagés en famille.
Tu peux fermer les yeux. Tout va bien.
Ça l'adore.
Je peux vous demander votre prénom, madame ?
Valérie.
Et Valérie, ça fait longtemps que vous accompagnez Nénette ?
On peut dire l'année dernière aussi, oui. Oui, je l'ai connue l'année dernière.
Alors, est-ce que vous êtes au courant du combat de Nénette et puis de ses volontés ?
Oui. Oui. C'est magnifique parce que ça peut permettre à d'autres personnes de suivre la même chose. Donc, c'est un bel exemple.
Surtout pour une adolescente comme elle, c'est assez impressionnant.
C'est ça, ouais. Oui, oui. Ben, c'est assez surprenant. Et voilà, mais elle sait ce qu'elle veut.
La démarche de Nénette, elle est hyper importante dans le deuil. Ça nous aide, vraiment. Elle nous facilite la tâche. La fierté dépasse la tristesse.
Vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose de très fort. Vous m'avez dit que c'est déjà une partie de notre deuil qui est fait grâce à elle, grâce à ça.
Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Un soulagement face à la mort. Parce que la mort, ça reste quand même une épreuve qui... La séparation est dure, mais... Moi et mon épouse, on a trouvé ça. Elle nous préservait de la faim. Elle ne choisit pas sa guérison, mais elle choisit sa fin. Mm-hmm. Et ça, c'est... Et j'espère que ça va aider plein de personnes.
Quand on ne peut pas aller contre la maladie et qu'on a fait vraiment tout notre possible pour sauver Nénette, il faut se rendre à l'évidence, il faut voilà, se souvenir de tous les bons moments passés avec elle. Et puis alors son histoire, oui, ce sera une force pour rester en mémoire.
Nénette est morte quelques jours après notre entretien. Le 22 juillet 2023, entourée de ses proches, elle avait 16 ans. Comme elle l'avait souhaité, elle a pu faire don de ses organes et sauver la vie de plusieurs personnes en Belgique et à l'étranger.